On va parler de Retour sur une saison à Gaza par Vivian Petit, un livre dans lequel il relate son expérience à Gaza, un recueil tout aussi personnel qu'éclairant au sujet de la situation de la population palestinienne et de sa condition de vie surtout. Bonjour Vivian.
Bonsoir.
Vivian, cet ouvrage a été publié chez Scribest dans la collection Les Contemporains, une série témoignages. On pourra voir justement que celui qui assure ta préface et qui sera là demain, Julien Salon.
Après-demain, non ?
Après-demain, pardon,
je
n'arrête pas de dire ça à chaque fois, mais en tout cas, il sera la mercredi, en effet. Il s'agit de Julien Salingue, à partir de 18h, pour une présentation de l'ouvrage, ce sera dans l'amphi B7. Julien Salingue, quelqu'un de très investi également sur cette condition palestinienne, qui aura pu dire sur la force de ton ouvrage, c'est de se situer au carrefour entre un témoignage personnel, une chronique de vie quotidienne, une mise en perspective politique. Ce n'est ni un carnet de bord, ni un texte d'analyse déshumanisé, ni une tentative présomptueuse de dresser un portrait de Gaza et de ses habitants. Voilà, c'est des allers-retours, comme il peut le dire, entre la France et Gaza, entre l'individuel et le collectif. Et là, une phrase qu'il aime beaucoup, entre la petite et la grande histoire. Comment est-ce qu'on s'y prend quand on part là-bas? On doit partir, on y reviendra sur le pourquoi du comment, mais se situer entre le récit de vie justement et entre l'espèce d'analyse politique qui effectivement peut être parfois présomptueuse sur cette question de la bande de Gaza.
Tu poses la question sur comment je m'y suis pris pour y aller ou comment je me suis pris pour
plutôt
raconter.
Quelles précautions on prend quand on passe à la rédaction.
D'accord. J'y suis pas allé au début avec l'idée d'écrire un livre en fait. Mm-hmm. Je me suis posé la question de peut-être écrire un livre. Mais sur place, j'ai tenu un journal où chaque jour, je consignais ce qui se passait dans ma vie à Gaza, que ce soit des rencontres avec des personnes, avec des étudiants, des remarques qui m'avaient éclairé, etc. Des lectures que j'avais, des choses que j'apprenais sur l'histoire de Gaza, des choses que je lisais dans les médias ou que les gens me rapportaient sur le blocus de Gaza, par exemple, et aussi des conversations que j'avais avec des amis en France, et ce qui me permettait aussi de confronter les idées que j'avais au début ou que avaient encore mes amis qui étaient en France et ce que j'avais appris à Gaza. Et c'est en le relisant quelques mois après que je me suis dit qu'il serait temps d'en faire quelque chose et que j'ai commencé à rédiger après l'été 2014, parce que je suis allé à Gaza en 2013. Et c'était pas comme à l'été 2014. À l'été 2013, il y avait le blocus, les pénuries, le stress, les menaces sur la population gazaoui. Mais il n'y avait pas, comme à l'été 2014, des semaines de bombardements, de massacres et de 1000 morts. Et comme je consignais jour par jour quels endroits étaient les plus victimes du blocus, quels endroits étaient en 2013 les plus menacés, quand je l'ai relu après 2014, je me suis rendu compte que c'est les endroits qui ont été les plus bombardés et les plus victimes du massacre. Et c'est là que j'ai décidé de faire un livre sur comment les bombardements, c'est pas lié à un cycle de la violence, c'est pas lié à une rupture d'une trêve, mais c'est le prolongement du blocus.
Un blocus qui date. Julien Salingue est très très bon aussi pour en faire l'histoire. On aura l'occasion d'assister à une belle discussion, j'imagine, mercredi dans cet amphi B7 sur tout ça. Revenons sur l'origine du projet, de ton déplacement là-bas. Tu étais en charge des cours de communication orale et écrite en langues étrangères, donc là le français en l'occurrence. Et donc tu racontes énormément de rencontres différentes que tu as pu faire, notamment avec Ziad Medouk. C'est une des premières rencontres, quelqu'un qui t'a assez a priori impressionné aussi. C'est une rencontre forte de ton arrivée, puisque c'est quasiment au lendemain de ton arrivée que tu l'as rencontré.
Ouais, c'est au lendemain de mon arrivée. C'est une des rencontres fortes comme plein d'autres. J'étais chargé de cours au département de français de l'université Al-Aqsa de Gaza, qui est une des 5 universités qui est à Gaza et qui est la principale université publique, celle qui dépend directement de l'autorité palestinienne. Parce qu'en Palestine, en fait, du coup, la Palestine est occupée. Il y a d'un côté la Cisjordanie qui est occupée, et au sud-ouest, il y a Gaza, qui est une enclave qui est séparée du reste de la Palestine et qui n'est pas occupée de l'intérieur, mais qui est assiégée et gérée de l'extérieur. Et il y a deux autorités et presque deux gouvernements différents. Et l'université Al-Aqsa de Gaza dépend donc de l'autorité palestinienne qui est à Ramallah. Ce qui crée aussi énormément de difficultés, par exemple les salaires parfois qui ne sont pas toujours payés ou qui sont payés des mois en retard, etc. Et ensuite, il y a les difficultés qui sont liées au blocus en permanence. Et par exemple, un des trucs auxquels je ne pensais pas les premiers jours et auxquels j'étais habitué à penser ensuite, c'est toutes les pénuries, les difficultés aussi à prévoir. Par exemple, il m'est arrivé de prévoir un cours en pensant qu'il y aurait l'électricité, et finalement, à ce moment-là, il n'y avait pas l'électricité. Ou quand conseillais des textes ou des choses à faire entre deux cours, je ne savais pas si j'aidais les étudiants ou alors si j'aggravais l'inégalité entre ceux qui avaient les moyens d'avoir un générateur d'électricité privé chez eux et ceux qui ne l'avaient pas. Mmh. Et je raconte dans le livre une série d'anecdotes là-dessus, ou même un de mes amis, Amir Hassan, qui raconte que lui, il a révisé son bac dans la rue à la lumière des réverbères parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans le camp de réfugiés dans lequel il était. Et au fur et à mesure que l'électricité était coupée dans un quartier et mise dans un autre parce que le gouvernement de Gaza essaye de répartir, il passait d'un quartier à l'autre en s'éclairant à la lumière des réverbères, quoi. Du coup, c'est tout un ensemble de rencontres et qui, du coup, sont assez prégnante et assez symptomatique de ce que c'est vivre sous blocus ou vivre dans un endroit assiégé. Parce qu'en fait, avant d'aller à Gaza, j'avais la peur de me retrouver à Gaza à un moment où il y aurait un massacre, des bombardements, comme j'en avais vu à la télé. Parce qu'il me semble être une peur un peu compréhensible. Mais il me semble que j'avais un peu sous-estimé ce qu'était le stress quotidien, même quand il n'y avait pas de bombardement, quoi, ce que ça faisait de vivre sous blocus ou sous un siège, quoi.
Oui, tu l'évoques à la fin de l'ouvrage, la surpopulation, l'enclavement de Gaza, à la fin finit réellement par t'étouffer. Toi-même, tu vis un peu, pas dans une peur panique, mais plutôt dans une peur constante. Quelqu'un qui vient, par exemple, frapper chez toi, et tu te poses énormément de questions après. Est-ce que c'était un indice? Est-ce qu'il pensait que j'étais un indice? Est-ce qu'il voulait ceci? Est-ce qu'il voulait cela? En fait, c'était une fatigue psychologique très forte au bout d'un moment.
Ouais, parce que Gaza, c'est en fait l'endroit où ont été parqués tous les réfugiés. C'est en 1948, quand est créé Israël, quand les milices qui deviendront l'armée israélienne expulsent les Palestiniens de leur ville et de leur village, que les Palestiniens fuient, soit dans d'autres villes palestiniennes, soit dans d'autres pays, ou alors vont vers le sud, et notamment vers le sud-ouest, à côté du désert, où est créée la bande de Gaza. Gaza, c'est le deuxième endroit le plus peuplé dans le monde, juste après Hong Kong, en termes de densité de population. Et du coup, surtout dans un endroit où c'est une population majoritairement composé de réfugiés, c'est-à-dire que dans les camps de réfugiés, il y a du monde partout. Aussi, dans plein d'endroits dans le monde, les gens, ils ont une difficulté à voyager ou à sortir de leur pays, parce que si on n'a pas un passeport occidental, on a du mal à aller dans le pays où on veut. Mais il y a au moins cette espèce de possibilité théorique ou cette possibilité de faire quelques dizaines de kilomètres. Quand on est complètement assiégé, cette possibilité-là, elle n'existe pas. Du coup, quand je sortais dans la rue, il y a plein de gens qui venaient me voir pour savoir comment c'était en dehors, ou qui me posaient des questions sur est-ce qu'on parle de la Palestine en dehors de la France, ou est-ce qu'on parle de la Palestine en dehors de la Palestine, est-ce qu'on parle de la Palestine en France, ou alors poser des questions sur le quotidien en France pour se sentir un peu lié quand même à un endroit dans lequel ils pourraient pas aller. Et le fait aussi de vivre dans un endroit qui est bombardé, qui est attaqué par Israël, ça peut monter les gens les uns contre les autres. Par exemple, ce que je raconte, là, justement, l'exemple que je cite dans le livre et que tu citais, c'était un gars qui vient me voir en me disant qu'il est homosexuel, en me demandant si je le suis. Et là, je me pose plein de questions sur pourquoi il me demande ça, quoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a des rumeurs sur moi? Et là, aussitôt, je pense à un certain nombre de trucs que j'ai lus où je sais que les services de renseignement israéliens cherchent à identifier les Palestiniens qui sont homosexuels pour les faire chanter, leur poser des questions sur leur voisinage, sur d'autres militants, sur d'autres combattants, en leur disant « si tu réponds pas à nos questions, on fera savoir à tout le monde que tu es homosexuel ». Et par ricochet, le fait d'être vu en Palestine comme homosexuel, ça fait qu'on est vu potentiellement comme un indice et quelqu'un qui répond aux questions. Et du coup, c'est une espèce de stress permanent. Et ouais, ça peut être un peu pesant parfois.
Quand tu parlais tout à l'heure des retours que tu faisais sur la situation à Paris ou la façon dont en France on parlait d'Israël, de la Palestine, tu as constaté notamment une certaine surprise que des non-arabes soutiennent la cause palestinienne. Comment tu l'expliques ça? Parce que pour nous ça paraît évident dans certains, en tout cas qu'on est au courant de la situation, que certains les soutiennent. Comment tu t'expliques qu'eux ne se rendent pas compte, ne réalisent pas?
Il y a deux choses. La première, c'est que j'étais quand même souvent interpellé en tant que Français pour savoir ce que je pensais de la politique de l'État français. Je pense qu'il y a en France un certain racisme d'État dans la manière dont sont traités les migrants, dans la manière dont sont traités aussi les Français d'origine arabe ou musulmans et dans les discours qui sont tenus par l'État sur l'islam. C'est quelque chose qui est quand même très couvert par les médias du monde arabe et qui est vécu avec beaucoup de violence par des personnes qui, en plus de se prendre des bombes sur la gueule, voient qu'on va se foutre de leur gueule parce qu'ils sont musulmans. J'étais souvent interpellé là-dessus et c'est quelque chose que je comprends. Et une fois que je précisais évidemment qu'il pouvait y avoir un décalage entre certains Français et la politique de l'État, la discussion était possible. J'étais aussi interpellé sur le soutien et les liens diplomatiques, politiques, économiques entre les États occidentaux et l'État d'Israël. Mmh. Et ensuite, une autre chose, c'est que ces personnes-là, ils avaient des liens avec des gens en France ou des Français, les quelques Français qui arrivaient à Gaza ou ceux qui organisaient des manifs de soutien à la Palestine. Et c'est vrai qu'il y a des gens de toutes les origines, mais oui, en proportion par rapport au reste de la population, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup d'Arabes qui soutiennent la Palestine en France. Et ça s'explique par des raisons historiques. Quand l'État d'Israël a été créé en 1948, a expulsé les Palestiniens, il y a beaucoup d'habitants de nombreux pays arabes qui ont voulu aller en Palestine pour des raisons anticoloniales. Il y avait à ce moment-là les luttes de décolonisation en Afrique du Nord, au Maghreb, et beaucoup de Maghrébins qui luttaient pour l'indépendance de leur pays ont voulu aller soutenir les Palestiniens. Et quand la France, par exemple, a soutenu l'indépendance d'Israël, contrairement à ce que disent les antisémites, les complotistes, c'est pas parce qu'il y aurait eu un lobby juif, un complot ou je sais pas quoi. Non, le gouvernement français à ce moment-là expliquait qu'une victoire des Palestiniens aurait été un encouragement pour les Arabes en Afrique du Nord qui voulaient leur indépendance par rapport à la France, notamment les Marocains, les Tunisiens, les Algériens. Et cette histoire-là, elle est encore présente en France quand des gens qui ont des grands-parents algériens, tunisiens, marocains, etc., écoutent leurs grands-parents qui leur expliquent ce que c'était que la colonisation, leur expliquent aussi que la Palestine, c'est une cause anticoloniale. Ou même quand on voit l'histoire des mouvements de solidarité en France. Il y a un soutien sur la base d'idéaux de gauche, d'idéaux des droits de l'homme, etc., avec parfois aussi des limites, parce que la gauche, elle a eu pendant longtemps un soutien à l'autorité palestinienne, une vision qui n'était pas seulement anticoloniale, ou qui n'était pas tellement anticoloniale, qui était aussi parfois juste le soutien à la mise en place d'institutions palestiniennes, plus qu'une lutte contre l'occupation, ce qui est du coup un soutien très limité. Et en parallèle, il y avait les milieux de l'immigration qui, eux, avaient des liens avec les organisations palestiniennes, qui avaient une vision anticoloniale et avec une interdépendance dans les luttes. Par exemple, les premiers comités de soutien à la Palestine, en France, dans les années 70, ils ont été créés par des étudiants syriens ou libanais, donc des pays frontaliers d'Israël, qui ont parfois été attaqués ou occupés par Israël, qui avaient du coup une conscience de ce qui se passait, qui, en venant étudier en France, ont créé des comités de soutien à la Palestine. Et c'est ces mêmes comités de soutien-là qui ont été après rejoints par de nombreuses personnes. Et c'est ces comités-là qui sont devenus ensuite le mouvement des travailleurs arabes qui a lancé dans les années 70 les grèves, les années 70 et 80, des grèves d'ouvriers spécialisés, du coup majoritairement maghrébins, contre les crimes racistes, contre le racisme en France, etc. Ces luttes-là, elles sont imbriquées, quoi.
Là, il y a plein d'infos qui vous arrivent dans vos oreilles, chers amis auditeurs. Pour en découvrir plus, c'est Vivian Petit, retour sur une saison à Gaza. Ça se passera mercredi à partir de 18h dans l'amphi B7, ici à Rennes 2. Tu parlais notamment de l'explication de certains soutiens ou non-soutiens à Israël, à la Palestine. J'ai pu remarquer, et on le lit aussi dans ton ouvrage, et c'est le cas pour Julien Salingue également, que cet attrait pour la défense du peuple palestinien est quelque chose d'assez fort, d'assez sensitif, qui au départ ne s'explique pas forcément, qui s'explique une fois qu'on y est. Mais alors, comment on peut expliquer que certaines personnes comme ça se plongent dans cette cause-là, se plongent parfois à corps perdu?
Je pense que c'est toujours une question de circonstances, de rencontres en fait. Genre, il y a des gens qui commencent à se politiser à partir de soutien aux migrants, la lutte contre la centrale nucléaire à tel endroit, le soutien à la ZAD, etc. Moi, mes premières manifs, ça a été il y a 10 ans à peu près, ou en 2006. J'étais au lycée à l'époque, j'ai 28 ans maintenant. Et c'était en 2006, et l'été suivant, Israël avait attaqué le Liban. Et avec les mêmes personnes, d'autres lycéens qui étaient allés aux manifs, du coup, contre le contrat première embauche, on était allés ensuite aux manifs contre l'attaque du Liban. Et il y avait aussi, à ce moment-là, j'écoutais, toujours comme maintenant, pas mal de chansons de rap, et dans le début des années 2000, la plupart des chansons de rap étaient à la fois sur le racisme en France et sur les guerres de Bush au Moyen-Orient et aussi sur la première intifada. Et là aussi, on voit que les combats sont liés.
Quand tu veux publier cet ouvrage et que tu tournes vers Julien Salingue, c'est quand même, même s'il est assez accessible, c'est quand même une sommité un peu de cette question palestinienne. Comment ça s'est déroulé, d'abord pour qu'il préfasse l'ouvrage et ensuite pour qu'il soit mercredi là pour co-présenter avec toi cet ouvrage?
C'est quelqu'un que j'avais rencontré dans quelques actions de soutien à la Palestine. Du coup, j'avais pu en discuter avec lui à ce moment-là. Mmh. Et je l'ai choisi lui, parce que j'ai beaucoup aimé son travail, notamment sur l'autorité palestinienne et sur les accords d'Oslo. C'est ce que je disais vite fait tout à l'heure. Une partie du mouvement de solidarité a pendant longtemps soutenu ce qu'on appelait le processus de paix et la mise en place d'institutions palestiniennes. Julien Salingue, il fait partie des gens qui démontrent que l'autorité palestinienne, les institutions palestiniennes qui ont été mises en place par ces accords-là, c'est moins l'embryon d'une indépendance que la manière qu'a eu Israël de déléguer la gestion de certains territoires à des institutions palestiniennes, comme chaque régime colonial ou comme chaque régime d'occupation arrive parfois à le faire. Et du coup, ça fait partie des gens qui considéraient qu'il fallait beaucoup plus s'appuyer sur ce qu'il appelle la société civile et essayer de soutenir ces campagnes-là, par exemple la campagne BDS, qui est la campagne boycott des investissements sanctions, du coup d'essayer d'appeler au boycott de l'économie israélienne, de trouver des cibles, de demander des désengagements pour faire pression sur Israël pour que les droits des Palestiniens soient réalisés et non pas seulement demander de manière abstraite la mise en place d'institutions palestiniennes. Par exemple, un des arguments de Julien Salingue contre l'idée qu'il faudrait juste mettre en place des institutions palestiniennes, c'est de dire que le moment où les subventions à l'autorité palestinienne ont augmenté, c'était en 2001, c'est-à-dire au moment de la répression de la seconde intifada, et au moment où il était clair pour tout le monde que finalement il n'y aurait pas d'État palestinien. C'est-à-dire que ce qui est censé être l'embryon de l'indépendance, c'est le plus soutenu au moment où il est clair qu'il n'y aura pas d'indépendance. C'est quelque chose qui pose question. Et vu que mon livre, c'était pas voir la Palestine par le haut, pas voir la Palestine par rapport aux institutions, mais essayer d'expliquer dans la durée ce que c'est un blocus, ce que c'est qu'une colonisation, ça m'a paru assez clair de lui demander de commenter ça, parce qu'il avait une vision historique assez précise. Et sa préface, ça remet aussi mon parcours dans un contexte et dans une histoire.
On essaiera d'en discuter avec lui si on a un petit peu de chance mercredi, on l'a dit, dans l'amphi B7 pour la présentation de cet ouvrage que je tiens entre mes mains et qu'il est donc possible de se procurer notamment durant cet événement. Comment ça va se dérouler concrètement? Ce sera centré sur l'ouvrage? Ça va être une discussion? Le public va pouvoir éventuellement interagir?
Ouais, il y aura deux temps. Je vais d'abord présenter mon livre pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, à la fois Julien Salingue et Romain Huet, le prof qui organise cette discussion-là, pourront rebondir, commenter ce que j'ai dit, poser des questions, etc. Et enfin, pendant à peu près trois quarts d'heure, la parole sera ouverte et il y aura une sorte de débat à la fois sur le bouquin, la situation en Palestine et les mouvements de solidarité ici.
Donc plein de sujets de conversation passionnants, nous y serons pour notre part. Merci beaucoup Vivian d'avoir été là.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de l'ouvrage « Retour sur une saison à Gaza ». C'est publié chez Scribest dans la collection « Les contemporains, série témoignages ».